Marceau et Pascal CV.
10h36, vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021. Comme la madame vient de dire, ça fonctionne par texto. J'espère que vous profitez de votre heure du midi. Qu'est-ce que vous faites présentement? Vous êtes à l'extérieur, vous prenez une marche. Vous avez baissé les fenêtres de votre véhicule et vous retournez au boulot. Qu'est-ce que tu fais que ton air climatisé baisse ta fenêtre? L'été s'en vient. Comment ça va, toi? Comment ça va, Valérie Gaudreau, chroniqueuse au soleil?
Bonjour, Éric Marceau. Ça va très bien, vous-même?
Ça va bien. T'en profites-tu encore un peu, là? Du soleil à l'extérieur.
Ben oui.
Ben oui.
Mais là, pas... J'ai bien hâte. En plus, que je m'en vais à Gaspésie en fin de semaine. Moi, je m'en vais au Festival de journalistes de Carleton. On ne va pas là pour des vacances, ouais. Mais quand même, le printemps à Carleton, dans la baie des Chaleurs, c'est quelque chose. Mais... Alors oui, bien intention. D'ailleurs, je me suis fait prendre ce matin. Je suis parti, je marchais dans la rue, puis je me suis dit, voyons, je suis donc bien habillé. En fait, tout le monde a... J'aurais dû faire un peu comme dans la toune de Blue Jean Blue, là, regarder un peu par la fenêtre si parce que vraiment des gens en ville là, à Saint-Roch, t-shirt, des gens en Bermuda à 8h moins quart le matin. Je disais OK.
Ah ouais, puis là, t'as du camion pas mal en ville. T'as quoi? 2000 camionneurs oui. À peu près qui sont en face de l'Assemblée nationale ou si ils sont pas arrivés, ils devraient arriver dans les prochaines minutes.
Ouais, exactement.
On nous annonce.
Puis après, il va y avoir une ronde aussi plus tard aujourd'hui.
On nous annonçait un maximum de 27 pour aujourd'hui avec un facteur humidex de 30. Donc, c'est une super de belle journée. Là, tu t'en vas en Gaspésie en fin de semaine. Tu t'impliques beaucoup hein, oui. Auprès des journalistes actuels et des futurs journalistes. Tu adores ce métier-là. C'est le fun de te voir aller.
Ah, vraiment. J'avoue que je multiplie bien des occasions. Soleil va recevoir aussi des stagiaires cet été. Ça, j'adore ça. Puis, ouais. Tout ce qui est panel, et je serai demain aussi, d'ailleurs, parce que c'est le mois de la presse et des médias.
Oui.
Et tu te souviens, on a d'ailleurs fait une activité ensemble l'année passée à ce sujet sur l'opinion et la mince ligne entre le reportage et l'opinion.
Oui.
Et, fait que là, on avait un pop quiz la semaine passée à Corrigan. On avait, tu sais, fait que c'est, j'aime ça, ouais, que le métier déborde. Je pense qu'on a un métier qui est, pas toujours, évidemment, qui est mis à mal par plein de choses, par la multiplication des plateformes aussi, par les fake news qui circulent abondamment. Puis on n'est pas toujours les préférés du public non plus, les journalistes, il faut se le dire, il y a une certaine crise de confiance. Fait que quand on peut avoir des occasions d'expliquer notre métier, d'en parler, moi, je trouve ça extrêmement important.
Oui, on va parler de divers sujets qui touchent l'actualité, mais qu'est-ce qui fait en sorte oui. qu'il y a une crise de confiance envers les journalistes, selon toi?
Ben écoute, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a eu, premièrement, c'est qu'on n'est plus le monopole de l'information. C'est-à-dire, historiquement, l'idée que le média et les médias en général étaient la radio AM, FM, les journaux papier, le téléjournal à heure fixe étaient les détenteurs d'une vérité ou de l'information.
Ouais.
Ben évidemment, les moyens de communication, donc, étaient, disons qu'il y avait un certain monopole. Et là, en fait, ce qui s'est créé, c'est des médias alternatifs, c'est des gens qui deviennent un peu la nouvelle eux-mêmes et les moyens de le diffuser, ça existait, mais on s'entend que si tu faisais un petit journal anti-gouvernemental ou que tu avais un truc, tu pouvais bien avoir ton petit fanzine photocopié à la pharmacie du coin, là, mm-hmm. mais la propension, évidemment, des réseaux sociaux vont largement contribuer à pouvoir réagir très rapidement aussi aux médias. Tout ça sur un fond aussi où les élus, le monde politique en général est sous la loupe parce que les gens se disent « je n'ai plus besoin de ceux qui représentaient ce pouvoir ». À tort ou à raison, parce que je pense que le journaliste traditionnel fait encore de très grandes choses et des enquêtes qui seraient pas nécessairement possibles là, pour des médias dits citoyens, mais il y a une multiplication des points de vue qui fait que pourquoi je t'écouterais toi si je peux en écouter 50?
Ouais. Mais des fois, j'ai l'impression, parce que moi, je peux parler de la radio, c'est un médium que je connais quand même pas pire, ça fait depuis 2006, puis des fois, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui se sont éloignées de ce que les gens vivent au day-to-day, puis tu sais, ce matin, j'étais voir sur le site du Soleil, puis là, on parlait de ce qui se passait à Québec aujourd'hui. T'sais, ah, ben regarde, tu vois, la manifestation, 2000 camionneurs qui s'amènent à Québec. Tu sais, des sujets locaux, j'ai l'impression que dans les dernières années, on les avait comme... C'est comme sauver de ça. Puis on prenait des sujets des fois qui touchaient pas monsieur et madame tout le monde. Puis le fait qu'on a pris conscience de ça, puis qu'on revienne à la place où on doit être, c'est-à-dire proche des auditeurs, Je trouve que ça revient tranquillement, ça. Cette confiance que les gens peuvent avoir envers les médias. Parce qu'on va se le dire, dans les dernières années, puis je pense que la pandémie nous a un peu séparés, là, toute la gang.
Ouais.
Oui. Aujourd'hui, je pense qu'on revient au bercail tranquillement, mais sûrement. Là.
Ben moi, je suis très heureuse d'entendre ça, parce qu'effectivement, quand il y a des grosses discussions, des grandes questions internationales, on le voit dans le cas de... Tu sais, ça polarise, là. Bon, par exemple, l'arrivée de Donald Trump, mais 2016, je te parlais de crise de confiance au début, puis d'exercice de confiance aussi des médias généralistes, parce que un des gros fondements des points, des breaking points, là, comme on dit, des points de rupture, ça a été novembre 2016, quand tous les médias américains traditionnels, généralement plus démocrates, ont à peu près donné assurément comme perdu Donald Trump, et tout à coup, on a comme je m'inclus là-dedans, cette espèce de... Tu sais, quand t'es dans les médias, t'as certaines préoccupations, comme tu dis, de repenser aux citoyens, puis de se dire « Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu venir? » Alors, 2016 a été, là, à mes yeux, un gros, gros wake-up call pour la presse dite élitiste, là, qui se rend compte qu'elle a peut-être pas vu des phénomènes, et je pense qu'il y a une certaine ouverture maintenant à mieux les comprendre, à voir les montées d'opinions variées. Puis lorsqu'il y a des grands événements, par contre, où on se rassemble, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une certaine recentralisation. Si on prend, par exemple, la menace des tarifs ou des conflits internationaux, je pense que les gens qui ont un désir de connaître, puis on parle pas juste je te parle pas des 4-5 gros médias, là, ça peut être toutes les radios, mais ça dépend, si t'invites un expert, tu veux mettre la lumière, la perspective, je pense que les gens ils ont encore ce refuge-là là, d'informations vérifiées, vérifiables.
Parce que l'actualité internationale, tu sais, elle est hyper importante, mais au day-to-day, des fois, ça nous touche pas dans notre propre vie, de voir on revient avec des dossiers locaux, on parle de ce que les gens ont directement dans leur ville, tu sais, vous couvrez régulièrement la scène municipale. T'sais, on sait ce qui se passe à Québec. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs en région, là, si les médias couvrent le maire à tous les jours, je pense pas. Mais à Québec, on a une belle couverture journalistique, puis belle couverture locale aussi. Là.
Moi, ce que je trouve fascinant, là, j'en parle souvent avec des collègues de Montréal, c'est à quel point l'info municipale à Montréal n'est pas couverte.
Exact.
C'est absurde. Il y a plus de monde qui couvre Bruno Marchand que Valérie Plante.
Oui, sont beaucoup sur des. À Montréal, sont beaucoup sur les dossiers provinciaux, puis les dossiers fédéraux et l'international, mais il manque une portion locale. Puis ça, bien, tant aussi longtemps que tu ne parles pas au monde qui sont en train de t'écouter, puis que tu n'es pas live, ça peut occasionner un petit malaise de la part des auditeurs. Là. Quand tu dis qu'il fait super beau, puis tu regardes dehors, puis il pleut à Sio, quand c'est préenregistré d'avance, c'est un peu bizarre. Hey, on revient à ta chronique du journal Le Soleil. J'ai trouvé ça très cool. Joël Lightbound, je l'ai rencontré. Je ne l'ai pas eu en entrevue, mais je l'ai rencontré quelques fois ici et là. Il me semblait être une bonne personne. C'est un avocat de formation qui a lâché une belle grosse job pour s'en venir comme député. Au départ, il était pressenti comme un premier de classe. Puis dans les dernières années, avec le gouvernement Trudeau, il a comme tourné le dos au gouvernement Trudeau. Puis il est devenu comme... La personne qu'on voulait pas voir. Et là, il revient par la grande porte comme ministre. Mais quelle histoire!
Ah, moi, je trouve ça fascinant. Moi, je le regarde aller depuis 10 ans. J'ai un Lightbound. Je me disais, j'étais là, Yannick, à son investiture. C'était même pas encore déclenché l'élection de 2015. Je me disais, qui c'est qui, à Sainte-Foy, tripe ses libéraux fédéraux à 27 ans? Tu sais, j'étais comme, on est où, là? Tu sais, c'était vraiment... Et il a travaillé sur le terrain. Ça a été comme quelqu'un qu'il s'est bâti, là, vraiment, son élection de 2015. Il n'a jamais lâché depuis. Et oui, je pense qu'il n'a pas été dans les... Ça n'a pas été le long fleuve tranquille, dans les bonnes grâces, là. Comme je dis dans la chronique, c'était l'incarnation parfaite, là. Le gars à gauche, tu sais, centre-gauche, très ouvert sur le monde, jeune. Ça allait bien avec le gouvernement Trudeau, première mouture. Puis ben, je sais pas, moi, j'ai jamais su là, en termes de relations plus interpersonnelles. Est-ce que tu penses pas que c'était personnel avec le premier ministre? Mais il a effectivement pas manqué d'occasion de critiquer une des plus spectaculaires critiques. Bon, est-ce que ça a miné son ascension au Conseil des ministres? Peut-être ultimement, mais ça a fait en sorte qu'effectivement, il l'a pas été avant 10 ans, mais regarde, il a aussi été authentique. Il a critiqué la gestion de la pandémie quand il y avait eu les camionneurs là, à Ottawa. Il disait, c'est sûr que si c'est un premier ministre qui dit que tout le monde qui est là, il est cave, puis ils n'ont pas raison, puis que c'est pas comme ça qu'on doit diriger. T'sais. On peut pas polariser comme ça lorsqu'on est élu. Fait que, il avait été très critique de Trudeau à ce moment-là. Il avait voté contre pour une motion du Bloc québécois contre le serment du roi. Il était le seul libéral à le faire. Il avait parlé d'un dîner de cons sur le troisième lien. Donc, c'est quand même quelqu'un qui n'avait pas la langue dans sa poche. Puis, effectivement, de voir qu'il a continué, qu'il a été patient et que là, Mark Carney voit en lui l'incarnation d'un nouveau visage. Vraiment, c'est un beau parcours pour Joël Lightbound. Puis, je pense que Québec n'y perdra pas au change avec le départ de Jean-Yves Duclos. Là, on a quand même un ministre à Québec. C'est pas banal quand même. À la grandeur du Canada, là, on voit que Mark Carney a voulu garder un ministre dans la région de Québec.
Puis, pourquoi on a tassé Jean-Yves Duclos?
Moi, je pense que c'est vraiment la fin d'une époque. Puis, c'est sans égard à M. Duclos. Il a été identifié à Trudeau. Il a été là 10 ans. Il y a eu des ministères importants. L'économie, il y avait toute la réforme des pensions familiales. Il y a été à l'approvisionnement. Donc, à la santé. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment été associé à l'époque Trudeau. Je pense que Mark Carney, d'ailleurs, il ne l'avait pas nommé M. Duclos dans son petit conseil des ministres très éphémère là, lorsqu'il a succédé à Justin Trudeau en janvier. Donc, vraiment, là, l'idée, c'était de dire écoutez, moi, je veux comme probablement garder Québec d'une certaine manière, mais on veut un nouveau visage. Puis, ce qui est particulier dans le cas de Joël Lightbound, c'est que c'est presque une autre génération, dans le sens que Jean-Yves Duclos n'est pas si âgé, mais il reste que Lightbound, ça fait aussi longtemps qu'il est élu. Il est à 4e élection, 10 ans à Chambre des communes, 9 ans et demi. Mais ce qui est ironique, c'est qu'il a juste 37 ans. Donc, c'est un nouveau visage. Je pense qu'il y avait vraiment une volonté. Puis tout le monde le vit comme ça.
T'as-tu l'impression, oui? Valérie, que ça a peut-être à voir avec les rififis qu'on a vus au sein du Parti libéral fédéral au courant des derniers mois? Puis que Carney a fait l'évaluation de si je mets Duclos très près de moi dans mon organisation puis que je lui donne des postes solides, je reflète un peu Justin Trudeau. Puis la deuxième position, qui n'a certainement pas gagné, il aurait pu se dire « Ah, c'est quand même un allié extrêmement loyal parce qu'il est resté auprès de Trudeau dans toute cette galère-là. » Puis il aurait pu le prendre comme élément positif en se disant « Ben, il va être pareil au même pour moi. » Dans les deux sphères, il a clairement choisi de décoller Duclos, par contre. Là.
Oui, mais moi, je pense qu'effectivement, mais c'est vraiment, je pense que rien égard à la personne, je pense que c'est vraiment ce qu'il représentait dans l'époque Trudeau. Écoute, d'autant plus que, tu sais, les Dominique Leblanc, Mélanie Joly, si tu prends les ministres québécois qui étaient proches québécois francophones dans le cas de M. Leblanc, François-Philippe Champagne, tu sais, il y a des grosses têtes à son ministère, des gros joueurs qui sont quand même associés à l'époque Trudeau. Fait que si tu veux changer, il faut que tu changes au moins à 50%, ce qui est arrivé à faire assez habilement. Je pense qu'il a réussi à brasser la soupe tout en gardant des éléments rassurants de continuité. Et je pense qu'effectivement, on sait que M. Duclos va bien travailler aussi avec Joël Lightbound. J'ai hâte de voir. Il va devenir demain responsable de la région de Québec. Il y a eu aussi des gains. Hein. Il y a Steve Lavoie là, qui s'est ajouté. Fait que c'est un trio quand même qui devrait là, très bien représenter la région de Québec, j'ai l'impression. Et je pense que oui, il est un petit peu victime là, de l'image qu'on veut projeter de se dissocier de l'époque de Justin Trudeau.
T'as-tu été chercher tes 8 billets d'autobus là, de l'administration Marchand qui t'ont été promis?
Je n'ai même pas de voiture.
Donc, pas de voiture?
La taxe sur l'immatriculation.
T'as pas de voiture?
Alors, je paye pas la taxe sur l'immatriculation. Je n'ai même pas de permis, mon cher Yannick.
Et les voyons
autres vont virer de sourd.
T'as pas de permis. Un jour, tu seras une grande.
Si on est... on est... Oui. C'est fascinant, nos différences. Tu vois comment... Mais je paye, évidemment, beaucoup de sous de transport en commun chaque année. Et donc, c'est pas l'idée du jet, hein, la manière de s'y prendre pour aller chercher. Franchement, je trouve que le coût-bénéfice va être pour que M. Marchand le reconnaisse lui-même là, que d'aller chercher Exposité, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Là. J'ai l'impression que, en tout cas, on se rend compte que c'est un petit peu compliqué. Et ouais. Là, je rebondis sur demain, mon cher, parce que je sais pas, tout juste avant d'arriver en onde, ou bien, il y a une heure ou deux, On a reçu une convocation. Sa maman, demain, ouais. sort sur la taxe sur l'immatriculation.
Oh! Il va proposer quoi?
Moi, je dis qu'il veut l'abolir, mais bon, c'est une prédiction sur le fly.
Mais s'il l'abolit, il faut qu'il dise où est-ce qu'il va prendre l'argent, parce que là, Bruno voilà. Marchand a pris ce 60$-là supplémentaire.
Bien là, ce qui se passe, c'est que c'est 18 millions, ce 60$-là. Et là, je pense que, en tout cas, je veux pas devancer l'argumentaire, je n'ai pas parlé à sa maman, je vais le dire pour ça. On se parle vraiment entre toi et moi, puis la boîte à bois, comme on dit. Mais je pense sincèrement que les profits qui ont été réalisés, là, le 98 millions là, de hausse par rapport au budget anticipé de la Ville de Québec, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'argument là, qu'a pu prendre un Claude Villeneuve, par exemple, en disant hey, ça veut dire qu'on a trop perçu. T'sais, c'est le fun des résultats financiers là avec des surplus de 98,3 millions. Mais est-ce que c'est normal? C'est un peu la question qui se posait. Je me demande s'il ne reprendra pas là, cet argumentaire-là, peut-être demain.
Donc, ça va se passer demain, mais tout ce que je voulais te dire, c'est concernant les fameux 8 billets. Là, c'est de voir que le maire Marchand reconnaît que... Puis j'ai adoré sa phrase, parce qu'il a fait une image, mais en même temps, il est resté le maire Marchand, c'est-à-dire qu'il a posé une question, puis après ça, il s'est répondu. Donc, il a dit, on n'a pas inventé la 8e merveille du monde, là, cette distribution-là, quand on se dit, en 2025, est-ce que ça pourrait être fait autrement? Oui.
Oui, absolument. Oh, oui, hey, ça, c'est tellement... On a-tu inventé la 8e merveille? Non. Ah, moi, là, ça me fait rire. J'entends... Tu sais, il y a des politiciens comme ça qui ont une musicalité, des réflexes, là. Mais Bruno Marchand se poser lui-même la question et répondre, c'est, ouais. Mais en fait, c'est savoureux. Là,
c'est un as de la communication. Il veut juste contrôler le message. Là.
Mais carrément, c'est qu'il se la pose à lui-même, donc il te la devance. Et dans ce cas-ci, la 8e merveille du monde, je pense que c'était un clin d'œil pour les 8 billets que bien des gens... Et là, ce qui va se produire, ironiquement, ben, c'est sûr qu'il y aura moins de succès sur la contrepartie qui était promise, ça ne sera pas nécessairement populaire. Donc, ultimement, avec une façon de distribuer aussi complexe, ben, tu as des gens peut-être qui n'auront pas essayé l'autobus pour X raison parce que c'est gratuit, puis ils se disent, hey, sais-tu quoi, on va aller l'essayer. Et donc, l'objectif était quand même d'essayer d'inciter des gens qui, techniquement, ne prendraient pas l'autobus à le prendre. Alors, finalement, s'ils n'ont pas accès, même leur billet est un paquet de troubles, effectivement, il va falloir revoir pour l'an prochain, c'est sûr, sûr, sûr.
Passez donc une belle journée, puis essayez de profiter de la belle température, si tu as le temps.
Sans faute, je vais aller faire un petit tour du bloc dans Saint-Roch.
Salut, bye-bye.
Aller voir des camionneurs.
Ben oui, des beaux camionneurs. Salut.
Ils klaxonnent moins que pendant la pandémie, là,
ben. Ben ouais, c'est ça. Salut, bye-bye.
Ils sont moins bruyants. Merci, bye-bye.
L'excellente Valérie Gaudreau, qui est chroniqueuse au soleil et qui en a le plaisir de parler chaque semaine. 1054, vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021. 88-971-1021.